Oui, allô, je suis bien avec Bruno Gendron. Enchanté, je suis Corentin de Happy Radio. Très bien, je suis très honoré de vous accueillir, monsieur Bruno Gendron. Vous êtes le président de la Fédération des aveugles et amblyopes, si je le dis bien, de France.
C'est ça, vous le dites très bien.
Merci beaucoup d'être avec nous, surtout pour partager votre expertise et votre engagement. J'ai quelques questions à vous poser.
Oui, tout à fait.
Très bien. Eh bien, on va commencer dès maintenant. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place actuelle du braille dans la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes ?
Alors, sur la place du braille, elle est essentielle et votre question tombe à point nommé dans la mesure où en 2025, nous célébrons le bicentenaire de la première version de l'écriture braille. Et aujourd'hui, le braille permet depuis 200 ans d'accéder à la connaissance, à la formation, à l'éducation et aussi à l'emploi, à l'accès à la culture. Alors avec quelques inquiétudes quand même que la Fédération des aveugles et amblyopes de France pointe du doigt. La première, c'est qu'il est difficile d'apprendre le braille sur le territoire national parce qu'il n'y a pas partout des enseignants spécialisés en capacité de permettre notamment aux élèves d'apprendre le braille. La deuxième inquiétude, c'est l'idée qu'il y aurait, et je le dis bien au conditionnel, une opposition entre nouvelles technologies et braille, ce qui amènerait la plupart des gens à ne plus lire en braille, mais à plutôt écouter des supports audio. Or, d'une part, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui l'écriture du braille et la lecture du braille, même de manière facilitée par rapport à ce qui pouvait se passer avant où on faisait, mais comme dans le monde des voyants, on faisait les choses à la main. Aujourd'hui, une personne voyante, elle écrit à l'ordinateur. Une personne aveugle, elle écrit à l'ordinateur et elle peut même donc écrire en braille. Donc, il n'y a pas cette opposition. Et surtout, comment aujourd'hui, si le braille perd de la vitesse, comment les personnes aveugles vont accéder à ce qui est quand même la base de l'éducation, c'est-à-dire savoir lire, savoir utiliser l'orthographe, savoir écrire. Puis enfin, je termine là sur ma réponse. Des recherches ont montré que les aveugles et malvoyants qui connaissent le braille, eh bien, ont de meilleures performances sur l'acquisition des connaissances, notamment dans les études, qu'une personne qui ne connaît pas le braille.
Moi, je vais pas vous laisser terminer votre réponse. Je trouve ça hyper intéressant, surtout l'expression que vous avez utilisée. Vous avez dit le monde des voyants. Et je trouve ça très bien de montrer qu'il y a un autre monde qui se crée parce qu'il y a un clivage d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis qui sont liés à l'apprentissage du braille? Vous nous parlez justement de l'émergence de la technologie numérique. Comment tout ça s'allie?
En fait, ça s'allie très bien parce que la nouvelle technologie, elle a cette capacité à embarquer avec elle des outils pour écrire le braille. Soit des machines, on va dire, spécifiques qu'on appelle des plages braille qui permettent de se connecter à un ordinateur ou qui permettent de travailler en braille de manière autonome, mais même je dirais certains téléphones, je pense à un téléphone du marché, j'allais dire que la plupart des gens utilisent, je citerai pas la marque, mais il s'agit d'un téléphone tactile et ce téléphone permet, alors pas de lire en braille parce que il n'y a pas les picots braille sur la vitre, mais par contre il permet d'écrire en braille en utilisant un clavier virtuel avec les 6 points du braille comme un voyant utilise le clavier virtuel AZERTY.
Très bien, ça doit être. Est-ce que vous avez déjà pu utiliser vous-même ce téléphone?
Oui, tout à fait. J'utilise moi-même et ça, votre question elle est importante parce que une des marques de fabrique, si j'ose dire, de la Fédération des aveugles de France, c'est que nous sommes une fédération d'usagers. Et donc les questions qui nous sont posées, les vôtres et puis aussi celles des pouvoirs publics quand on nous convie, eh bien c'est la parole de l'usager. Donc tout ce que je vous dis évidemment sont des choses que j'utilise moi-même. J'ai été dans ma vie professionnelle enseignant à l'université. Je ne travaille évidemment pas en vocal pour faire mes cours. J'avais des notes comme tout prof. J'avais des notes et je faisais mon cours avec mes notes en braille et je m'imaginais même pas, enfin ça m'est pas venu à l'esprit une seconde, de me dire je vais mettre mes notes en audio, avoir l'oreillette et dérouler mon cours en m'écoutant moi-même avec mes arguments de cours, c'était rigoureusement impossible. Et en tout cas, moi, je ne le souhaitais pas.
Par rapport à tout ça, justement, est-ce que vous avez des actions que la fédération, met en place pour promouvoir l'utilisation directe du braille?
Alors oui, comme on est une fédération, on rassemble en notre sein une cinquantaine d'associations membres sur tout le territoire. Et parmi celles-là, il y a un certain nombre d'associations, notamment les éditeurs de livres adaptés, notamment pour les enfants, mais pas que, qui utilisent le braille comme vecteur de lecture, en l'occurrence. Je pense par exemple au Centre de Transcription et d'Édition en braille, je pense à Mes Mains en Or, je pense à Les Doigts qui Rêvent, je pense à Benjamin Média, et le risque, ayant commencé à laisser cité. Je sais qu'il y a 6 acteurs du livre dans la fédération. Je sais que les 2 autres vont être embêtés que je ne les ai pas cités, mais voilà, c'était le risque de commencer à citer des structures. Et puis, il y a aussi des structures au sein de la fédération qui travaillent avec pour l'inclusion des enfants et des jeunes adultes dans le monde scolaire et universitaire, et qui permettent aussi aux enfants d'acquérir le braille, la lecture, l'écriture du braille, l'usage, j'allais dire, des moyens traditionnels pour écrire le braille, notamment les machines à écrire le braille mécaniques, un peu à l'équivalent de ce que les voyants utilisaient, les vieilles machine à écrire, vous savez. Donc on a les mêmes en braille, et puis on apprend aussi aux jeunes enfants à utiliser les outils numériques, et notamment avec des supports braille.
Donc votre fédération suit beaucoup l'éducation, si j'ai bien compris, la culture aussi. Est-ce qu'il y a peut-être un suivi sur l'emploi?
Alors il y a un sujet sur l'emploi qui est évidemment majeur, parce que là aussi l'idée c'est le propre de notre fédération, comme on a des structures qui interviennent un peu dans tous les domaines. Du coup, nous, en tant que fédération, on est amené à faire les liens, et on a raison de les faire. C'est-à-dire, votre question autour de l'apprentissage du braille, elle est intimement liée à la question de l'insertion professionnelle. Parce que comment une personne qui va devoir travailler peut le faire sans avoir les outils de lecture et d'écriture du braille? Parce que ça veut clairement dire, quelqu'un qui ne connaît pas le braille, ça veut dire que quelque part, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, comme on pourrait le dire d'une personne voyante, en fait. Hein. Et puis aussi, dans la question de l'emploi, il y a tout le travail autour de la proposition que les associations du réseau fédéral font de l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Autonomie dans les déplacements, autonomie dans les usages du numérique, autonomie dans la vie quotidienne, parce qu'on imagine mal une personne. J'ai l'habitude de prendre une image qui est un peu familière, mais on découpe pas les gens en rondelles de saucisson, quoi. Donc il n'y a pas la personne aveugle qui travaille, puis à côté, d'une manière complètement isolée, indépendante, la personne qui vit chez elle. Donc imaginons une personne qui est en emploi, qui pour son insertion professionnelle est obligée de déménager dans une autre ville. Ben, il faut bien que pour une personne voyante, ce sera relativement facile. Elle regardera sur Google Maps ses trajets, puis elle ira dans son supermarché du coin. Pour la personne aveugle ou malvoyante, il va falloir lui apprendre les trajets, il va falloir qu'elle prenne ses points de repère pour aller faire ses courses, pour qu'elle s'organise dans sa vie privée. Et tout ça, alors c'est un peu loin de l'emploi, pas tellement, parce que en fait, de deux choses une, ou la personne a la capacité de son autonomie, et du coup elle va accepter un emploi même un peu loin de chez elle, parce que elle sait qu'elle a les ressources et qu'on lui a donné les ressources pour pouvoir gagner cette autonomie-là, ou elle ne l'a pas et du coup elle acceptera même pas l'emploi. Donc les deux éléments sont liés, en fait.
Est-ce que vous avez des projets que la fédération soutiendrait pour faciliter l'accès à l'information et la communication? J'imagine que ça fait entièrement partie du fait d'aller travailler ou de chercher du travail.
Alors, nous participons notamment à des travaux avec des entreprises pour sensibiliser les entreprises au fait que les personnes aveugles et malvoyantes ont de réelles capacités des professionnels et peuvent apporter une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, pas plus, pas moins. Et clairement, la fédération, elle est positionnée non pas sur, on va dire, je vais le dire de manière un peu triviale, mais non pas sur l'emploi des personnes aveugles, mais sur l'emploi de compétences. Hein, on se met bien dans le registre des compétences. On peut pas dire à une entreprise, vous avez intérêt d'embaucher des personnes aveugles. Il faut que les personnes, elles soient d'abord compétentes, et après, il y a une caractéristique, c'est qu'elles sont aveugles. Donc, on met parfois les entreprises en situation, on les met sous bandeau, et puis on a, il y a un travail qu'on fait beaucoup à la fédération, c'est qu'on est producteur de documentation pour nos partenaires, et notamment, si vous évoquez la question de l'emploi, on a une brochure qui est en libre accès sur Internet, hein, www.aveugledefrance.org, avec un S aveugle, qui s'appelle Travailler avec une personne déficiente visuelle, quelque chose comme ça. Et c'est une brochure qui a été faite pour justement aider les entreprises à mieux insérer une personne aveugle. Et tous nos travaux, ça c'est aussi une caractéristique. Donc cette brochure-là, et parmi toutes les autres, on les fait toujours en partenariat entre des personnes elles-mêmes concernées et des professionnels de la déficience visuelle. C'est jamais chez nous que les professionnels qui font un travail ou que les personnes aveugles qui produisent quelque chose. C'est toujours un mix entre les deux. Et puis, dans les actions qu'on a autour des entreprises, on a notre observatoire du respect des règles d'accessibilité numérique où on a mis donc cet observatoire pour mesurer l'accessibilité numérique, en tout cas le respect des règles déclaratives des entreprises et aussi du secteur public. Hein. Et ce qu'on constate avec cet observatoire, c'est que enfin, autour de 3% des sites qui ont été audités, eh bien, respectent les règles, c'est-à-dire mettent sur leur page d'accueil le fait qu'ils sont accessibles ou pas, ou qu'ils ont une déclaration d'accessibilité et qu'ils ont un plan d'action sur 3 ans. Donc c'est peu. On est les 3%, on les étalonne sur à peu près 4000 sites en fait.
Parmi tous ces messages qu'on a pu véhiculer au cours de cette modeste interview, est-ce qu'il y en a un que vous voudriez véhiculer au grand public à l'occasion de la journée du Braille?
Alors, pour la journée du Braille, ben, effectivement, c'est l'importance vraiment de célébrer Louis Braille. On dit toujours « nul n'est prophète en son pays » et c'est un peu vrai parce qu'on le fête pas assez. Mais au-delà de célébrer la première version de l'écriture Braille, c'est aussi l'avènement du Braille a permis aux millions de personnes aveugles et malvoyantes de devenir de véritables citoyens, puisque ça nous permet effectivement d'être dans une dynamique d'accès à la connaissance équivalente à celle de l'ensemble de la population. Donc quelque part, on pourrait presque dire que Louis Braille, il a permis l'émancipation des personnes déficientes visuelles. Et pour prendre un mot qui n'était pas évidemment dans le champ lexical de Louis Braille, mais qui est dans notre champ lexical aujourd'hui, quelque part, en inventant le Braille, il a une approche inclusive, c'est-à-dire qu'il met les personnes aveugles, j'allais dire, sur le même plan que l'ensemble des personnes valides. Mais vraiment, le mot fort, c'est la citoyenneté. Vous savez que l'adage de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, c'est la citoyenneté, ça nous regarde. On aime bien l'utiliser parce que c'est, pour moi, il a un double sens, c'est-à-dire c'est à la fois je dois faire valoir que en tant que personne déficiente visuelle, j'ai un accès, j'allais dire, à toutes les propositions qui peuvent être faites dans la vie en général, donc à l'emploi, à la culture, etc., à l'éducation, à la formation. Et puis d'autre part, la Fédération des aveugles de France a aussi l'idée que dans les combats que nous menons, eh bien, il y a des combats qui, alors le Braille c'est un peu l'exception peut-être, mais il y a des combats que nous menons, mais qu'on mène pour l'ensemble de la population. Par exemple, quand on réfléchit sur la question de l'accessibilité numérique, eh bien, moi je prétends qu'un site accessible pour des personnes déficientes visuelles, il va être beaucoup plus facile et beaucoup plus ergonomique à utiliser pour une personne voyante. Et donc, du coup, c'est le double effet qui se coule.
Merci beaucoup d'être avec nous. Dernière question, comment nos auditeurs peuvent soutenir les actions de la Fédération et contribuer à une meilleure inclusion des personnes déficientes visuelles? Donc, ça passe par des actions quotidiennes, ça, j'imagine.
Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y a le fait de pouvoir rejoindre l'une des 50 associations membres, et pour les trouver, il suffit d'aller sur notre site internet www.aveugle-de-france.org. Autre manière de faire, c'est de pouvoir faire des dons à la fédération. Il y a un lien pour ça, dons et legs. Il faut que vous sachiez que nous vivons 3/4 de nos ressources, tout ça est public et tout ça est sur notre site internet, de dons et de legs. Et d'ailleurs, nous avons été renouvelés dans notre labellisation IDEA, c'est notre labellisateur qui qualifie en fait l'usage des dons qui sont faits à la fédération. Et puis nous avons, comme toutes les associations aussi, toujours besoin de bénévoles qui viennent nous aider à construire nos actions et à les partager.
Merci beaucoup, mille fois, d'être avec nous au micro de Happy Radio. Ce fut un plaisir, on espère vous retrouver peut-être l'année prochaine pour en reparler.
Eh bien, avec plaisir, et j'ai beaucoup apprécié l'intérêt des questions et l'intérêt que vous portez au Braille et à la Fédération des aveugles de France.
Merci beaucoup, et comme je dis d'habitude, on se retrouve une prochaine fois.
Avec grand plaisir.
À la prochaine, merci beaucoup Bruno Gendron.
Merci.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.